Vous écoutez France Culture.
Le journal présenté par Laura Dulieu.
Bonjour à toutes et à tous. À la une de ce journal, Édouard Philippe donne le ton pour la rentrée. La croissance n'est pas aussi forte que prévu. Il faudra donc faire de nouvelles économies pour le budget 2019. Une annonce qui fait réagir parmi la classe politique. Nous aurons les explications de Benoît Bouscarel. Il était une figure incontournable de la vie politique américaine. John McCain est mort à 81 ans. Nous reviendrons sur sa vie avant la politique. Et puis nous irons en Italie où une solution a été trouvée pour les migrants bloqués à quai sur un navire italien en Sicile. Les précisions Olivier Tosseri dans ce journal. Enfin, en Irlande, où le pape entame son deuxième jour de visite, nous irons à la rencontre des catholiques progressistes. Ils demandent plus de droits pour les LGBT au sein de l'Église. Moins d'emplois aidés, moins d'État, des prestations familiales qui augmenteront moins vite que l'inflation. Édouard Philippe donne ce matin les principales orientations avant le budget 2019. Un budget qui se préparera avec des prévisions de croissance moins optimistes que prévu, 1,7% au lieu de 1,9% jusqu'à maintenant retenu. Bonjour Benoît Bouscarel.
Bonjour Laura.
Sans surprise, ces orientations sont assez politiquement définies.
Oui, le côté droitier de ces mesures est parfaitement assumé par le Premier ministre. Il dit vouloir, je cite, « que les Français reviennent vers le travail, que le travail paye et qu'il paye de mieux en mieux. » Édouard Philippe veut continuer à diminuer le recours aux emplois aidés, encore trop souvent jugés inefficaces, et revaloriser les heures supplémentaires, comme l'avait fait en son temps Nicolas Sarkozy. Il veut supprimer plus vite que prévu les cotisations salariales sur ces heures, mais sans pour autant les défiscaliser, note ce matin Gilles Platret, porte-parole des Républicains, qui fait également remarquer que la baisse du nombre des fonctionnaires prévue pour 2019, soit la suppression de 4500 postes, est petit bras.
On voit bien que M. Philippe est prisonnier d'une vision technocratique de l'économie, qu'il n'arrive pas à réformer l'État, et c'est ça la mère des batailles. Si vous voulez libérer la croissance et donc donner du travail à tout le monde et augmenter le pouvoir d'achat, alors commencez par réduire l'État à sa juste mesure, c'est-à-dire un mieux d'État. Ça ne veut pas dire la suppression de l'État dans des tas de domaines, mais ça veut dire une action d'envergure. Or ceci, M. Philippe, ne la mène pas.
À gauche, c'est la désindexation des prestations familiales et des pensions de retraite par rapport à l'inflation qui fera réagir. Avec les APL, ces prestations seront revalorisées de seulement 0,3% alors qu'on attend une augmentation du coût de la vie de 1,5% en moyenne en 2019. Édouard Philippe fait valoir que ces mesures seront, selon lui, compensées par la fin de la taxe d'habitation, la suppression totale des cotisations salariales, chômage et maladie, ou par le reste à charge zéro sur les lunettes, les prothèses dentaires et les appareils auditifs. Pour Éric Coquerel de la France Insoumise, le compte n'y est pas du tout et le paradigme n'est pas bon.
On a un Premier ministre qui est face à un retournement économique et au lieu de comprendre que c'est la politique menée justement de ce type, c'est-à-dire les politiques libérales qui s'en prennent aux dépenses publiques, qui s'en prennent aux mécanismes de solidarité, qui donnent beaucoup aux riches, au lieu de prendre globalement le problème, en réalité, il ne fait que l'aggraver.
Voilà, autre réaction ce matin de la France Insoumise, celle de Jean-Luc Mélenchon à Marseille, à la fin des amphis d'été. C'est la saignée de l'État et des services publics qui est prévue, selon lui, par Édouard Philippe. Le projet de loi de finances sera présenté à la fin du mois de septembre.
Merci Benoît Bouscarel. Et toujours en politique, après les rentrées de Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure, c'est au tour de Laurent Wauquiez. Le président des Républicains fait aujourd'hui sa traditionnelle ascension du Mont-Mésenque. Laurent Wauquiez qui doit faire face à des divisions au sein de son parti, notamment avec Valérie Pécresse, qui a lancé vendredi son propre mouvement. Sa famille l'a annoncé cette nuit. Le sénateur de l'Arizona, John McCain, est décédé hier à l'âge de 81 ans. Il était atteint d'un cancer du cerveau. À Washington, les drapeaux de la Maison-Blanche et du Capitole sont en berne. John McCain était une figure de la politique américaine, mais ce n'était que la deuxième partie de sa vie, Louis Glory.
Et il avait eu une vie avant la politique. John McCain n'a pas toujours été sénateur, il fut un soldat décoré, un pilote capturé pendant la guerre du Vietnam. Emprisonné en 67, on avait pu, à l'époque, entendre sa voix.
I would just like to tell my wife.
Je voudrais seulement dire à ma femme
get well.
Que j'irai bien,
I love her.
Que je l'aime.
40 ans plus tard, John McCain n'est plus le même homme. Sénateur de l'Arizona, candidat malheureux à la présidentielle de 2008 face à Barack Obama, le républicain, figure très respecté, avait perdu avec dignité.
Je reconnais le caractère très particulier que cette élection doit avoir pour les Afro-Américaines. J'ai toujours cru que les États-Unis offraient des opportunités à ceux qui savent les saisir. Le sénateur Obama, lui aussi, croit en cela.
Ces dernières années, John McCain était devenu un féroce adversaire de Trump, tout en gardant jusqu'au bout sa foi dans la politique.
J'ai eu une longue carrière avant d'arriver ici, peut-être aussi longue. Une autre profession qui était profondément valorisante et dans laquelle j'ai connu des expériences et des amitiés que je chéris aujourd'hui. Mais ne vous y trompez pas, servir ici au Sénat est le plus important qu'il m'ait été donné d'exercer.
Et les hommages se multiplient avec ceux notamment de Barack Obama et Bernie Sanders. Le président Donald Trump a quant à lui présenté ses condoléances et son respect sur Twitter à la famille de John McCain. En Italie, après 10 jours de crise, une solution a été trouvée pour l'accueil des 177 migrants bloqués sur le navire Diciotti au large de Catane. Le ministre de l'Intérieur italien sera par ailleurs poursuivi en justice pour sa gestion du dossier. À Rome, les précisions d'Olivier Tosseri.
L'Église catholique apporte la solution pour sortir de l'impasse. L'intransigeance du ministre de l'Intérieur y avait placé l'Italie isolée et les migrants confinés depuis 10 jours sur le navire Diciotti. L'Église en accueillera donc une centaine dans ses structures et à ses frais. L'Irlande et l'Albanie accueilleront les autres. Cette dernière, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, attend que son geste favorise sa candidature d'adhésion. Un geste salué par Matteo Salvini comme un acte de générosité face à l'Europe égoïste et à un gouvernement français qui ne s'est pas montré aussi sérieux. Bruxelles et Paris qui ont été supplantés hier dans la longue liste des cibles du ministre italien de l'Intérieur. Il est désormais visé par une enquête ouverte par les magistrats d'Agrigente en Sicile. Matteo Salvini et son chef de cabinet devront répondre de séquestration de personnes, arrestations illégales et abus de pouvoir. Ils peuvent m'arrêter, a-t-il immédiatement réagi, mais ils n'arrêteront pas la volonté de 60 millions d'Italiens. C'est une honte. Matteo Salvini, heureux d'être au centre du débat et de l'attention publique, qui n'entend pas renoncer à ses provocations et à sa politique migratoire. Ce mardi, il rencontrera à Milan le très controversé Premier ministre hongrois Viktor Orban pour changer les règles de l'Europe.
Et face aux critiques répétées de l'Italie, le commissaire européen à la migration, Dimitris Avramopoulos, a estimé que ces attaques contre l'Union européenne revenaient à se tirer une balle dans le pied. Deuxième jour de visite pour le pape François en Irlande. Il a une nouvelle fois demandé pardon tout à l'heure pour les agressions sexuelles commises en Irlande par des prêtres. Mais beaucoup de catholiques progressistes veulent être entendus du pape pour qu'il réforme en profondeur l'Église, notamment pour mieux accueillir les communautés LGBT. Julien Lagache est allé les rencontrer samedi lors d'un rassemblement à Dublin avant une autre manifestation cet après-midi.
Sur le célèbre Apenny Bridge de Dublin, une rangée de parapluies arc-en-ciel se met en place. Sous l'un d'eux, Eddie McGuinness explique que l'opération vise à rendre les catholiques LGBT plus visibles. Nous sommes acceptés par la communauté, mais pas par la hiérarchie. Il faut donc faire comprendre que nous faisons partie de cette grande famille catholique où il s'agit d'aimer son prochain comme soi-même. Parmi les personnes venues soutenir le mouvement, beaucoup considèrent d'ailleurs l'Église comme paralysée de l'intérieur, ce qui empêche d'autres réformes, comme l'ordination de femmes prêtres, juge Gabrielle Cassidy, sympathisante de 55 ans. Je pense que l'Église est en danger, mais peut-être que les structures doivent être supprimées ou doivent s'effondrer pour laisser place à un nouveau message qui viendrait des gens. Un avis que partagent beaucoup d'Irlandais, comme Chris Doyle, ce dublinois et fervent catholique, juge que l'institution religieuse devrait s'inspirer davantage de la société pour se réformer. L'homosexualité était un crime il n'y a pas encore si longtemps en Irlande. Aujourd'hui, notre Premier ministre est gay. Je pense que l'Église devrait regarder ce qui se passe autour d'elle afin d'évoluer parce que le monde lui évolue. Les paradoxes de cette société irlandaise critique des institutions, nombreux fidèles sur la même ligne attendent un geste de la part du pape qu'ils perçoivent comme réformateur ou au moins volontariste, mais freiné par un conservatisme issu du Vatican.
Le souverain pontife se rend aujourd'hui dans l'ouest de l'île avant de revenir célébrer à Dublin une messe de clôture pour la rencontre mondiale des familles. Un vote populaire contre la corruption, c'est aujourd'hui en Colombie où la Constitution permet de proposer des référendums en cas de pétition ayant recueilli 3 millions de signatures. Ce fut donc le cas. L'initiative a été lancée par l'ex-sénatrice Claudia Lopez. Sa pétition a reçu 4 millions de signatures. L'enjeu du référendum, donner au Congrès un mandat obligatoire pour adopter des mesures anticorruption d'ici un an. Et le temps ce dimanche, le soleil est de retour sur l'ensemble du pays, sauf sur les côtes de la Manche qui seront sous les nuages et quelques averses. Ailleurs, du soleil donc, mais du vent sur le pourtour méditerranéen. Du côté des températures, le soleil réchauffera un peu l'air. Vous aurez 28 à Perpignan, 27 à Montpellier. Le long de la Manche, il fera de 17 à 20 degrés, 22 à Paris, 23 à Biarritz et 21 à Strasbourg. Il est 12h40 sur France Culture. C'est l'heure de retrouver Tiffaine de Rocchini pour le magazine du week-end.